Voilà, alors c'est une grande joie de... Ouais, attends. Ah, d'accord, voilà. C'est une grande joie de me retrouver devant vous et de partager avec vous ce que nous avons commencé à voir dans notre feuilleton de l'été, le livre de Ruth, puisqu'il y a 4 chapitres et que nous en avons déjà vu 2 et que le dernier sera dans 15 jours. Et plus on travaille sur ce livre de Ruth, on se l'est tous dit, plus on travaille dessus et plus on trouve qu'il a des richesses extraordinaires. Il faut vraiment le lire et le relire. Vous vous rappellerez peut-être, sinon je le dis pour ceux qui n'étaient pas là, qu'il y a 15 jours ou 3 semaines, Diana avait commencé par... présenter le livre, bien sûr, et dans le premier chapitre, avait montré l'ouverture d'esprit extraordinaire de l'auteur de ce livre qui ne dit pas le moindre jugement de valeur, jugement moral contre les personnages et ce qu'ils ont fait. Elle avait aussi souligné le côté très non conventionnel des personnages et notamment de cette relation étonnante entre belle-fille et belle-mère, entre Ruth, la jeune étrangère, moabite de surcroît, c'était pire, et puis la juive Noémie, écrasée par son chagrin. Il y a une semaine, Joël Druet avait montré à travers le chapitre 2 la détermination de Ruth, son audace aussi de se lever pour aller faire le seul travail qu'elle pouvait faire, ce travail très humble, de glaner, de ramasser les restes des épis tombés des gerbes pour pouvoir nourrir sa belle-mère. Et cet amour en marche de Ruth, qui avait donc pris l'engagement précédemment de suivre sa belle-mère et de l'aider, elle l'avait pris devant Dieu, eh bien, reçoit une première réponse positive à travers la générosité du maître du champ, Boaz, le riche propriétaire juif. Et quand Noémie apprend ce retournement de situation, Noémie Mara, écrasée de son chagrin, tout à coup a une véritable conversion. Elle réalise que Dieu est là, qu'il veut et pas son malheur, et qu'il y a un retournement de situation possible par l'existence qu'elle semblait avoir oubliée de ce Boaz qui est un proche parent, ce qu'on appelait à l'époque un rédempteur, quelqu'un qui était capable d'aider, de soutenir la famille. Et donc, ça lui donne des idées. Mais avant que j'embraye sur le chapitre 3, je voulais quand même vous parler un petit peu de la structure de tout le livre. Parce que ça n'est pas comme dans nos romans, des épisodes qui s'enchaînent l'un après l'autre et qui culminent à la fin. Les livres bibliques, dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, ont une structure assez particulière, qu'on appelle une structure en chiasme. C'est-à-dire, si vous voulez, une image, que c'est un petit peu une structure d'aller et retour, ou une structure, il me semble qu'il y a un problème avec le micro, une structure de, comment dire, d'un paysage qui se reflète dans l'eau, comme une symétrie axiale, une symétrie à travers un miroir, mais en même temps, une situation qui se répète, ne se répète pas exactement la même, il y a toujours progression. Et ça donne du rythme et du dynamisme, mais en même temps, c'est une construction très solide. Alors, le fameux livre de Ruth, en fait, 4 chapitres, mais 6 épisodes qui se reflètent. L'axe, il faudrait le mettre entre l'épisode C1 et l'épisode C2. La mort, la stérilité de la famille d'Elimelech, l'engagement de Ruth à suivre sa belle-mère, la rencontre publique sur le champ de Ruth et Boaz, la rencontre privée, c'est celle dont je vais vous parler, la nuit, puis l'engagement de Boaz à épouser Ruth, et enfin une nouvelle famille qui aura une longue descendance puisque ce sera celle du roi David et du Messie. Ça, c'est la structure littéraire. Mais il existe, me semble-t-il, également une autre structure en chiasme dans ce livre et qui soutient le livre et qui lui donne sa respiration. C'est une structure sur le fond qui est faite par les différentes bénédictions qu'on entend prononcées par les protagonistes, ou plutôt un appel à la bénédiction de Dieu. Il y a tout d'abord une bénédiction générale. On a de nouveau du pain à Bethléem, et ça provoque le retour de Noémie. Mais ensuite, vous voyez, vous avez sept bénédictions, sept, c'est le chiffre sacré, organisées symétriquement. Noémie qui bénit ses belles-filles parce qu'elles se sont bien occupées de ses fils et qui leur souhaite le meilleur souhait qu'elle peut faire, c'est-à-dire de se remarier. Que l'Éternel agisse avec bonté. Ce thème de bonté va être le fil directeur de tout le livre. Puis Boaz et les moissonneurs se bénissent l'un l'autre comme salutation. La troisième bénédiction, c'est Boaz qui bénit Ruth parce que d'une part, elle a pris soin de Noémie, mais surtout, elle s'est réfugiée sous l'aile du Seigneur. C'est une phrase dont il faut aussi se souvenir. Et il lui souhaite une récompense, que l'Éternel te le rende. Puis la bénédiction centrale, qui est vraiment le cœur du message, qui est le cœur du livre, c'est la conversion de Noémie, qui tout à coup se rend compte de l'existence de Boaz et qui en est heureuse. Et elle bénit l'Éternel et elle bénit Boaz, l'Éternel qui garde sa bonté pour les vivants et les morts. Non, elle n'est pas abandonnée, elle n'est pas maudite, comme elle croyait dans le premier livre. C'est l'axe central. Puis il y a Boaz qui bénit Ruth une deuxième fois sur l'air, on le verra tout à l'heure. Enfin, les anciens et le peuple qui bénissent le mariage, bel et bien mariage, de Ruth et Boaz. Et enfin, les femmes qui bénissent Noémie qui a été rachetée puisqu'elle a maintenant un fils. Elle n'est plus la mère, elle n'est plus celle qui est vide, elle est comblée. Et c'est vraiment aussi cette trame de notre livre. Et puis on peut éventuellement voir apparaître aussi deux autres petits chiasmes, comme je l'ai dit déjà, Noémie Mara qui se croit maudite, puis qui trouve l'espérance, se retourne de nouveau vers Dieu, et Noémie qui est finalement rachetée. Et puis Ruth, qui se met sous l'aile de Dieu, puis qui travaille pour Ruth, pour Noémie, puis qui est d'accord de se donner un homme pour pouvoir faire un fils. Et enfin, Ruth, qui épouse Boaz, qui se met sous sa protection et qui a un enfant. C'est aussi des chiasmes qui scande, qui rythme le livre. Et si j'en parle, c'est que je pense que cette harmonie très spéciale du livre lui donne d'abord beaucoup de beauté, mais lui donne aussi beaucoup d'ordre. Et pour moi, cet ordre, cette harmonie, cette beauté, c'est une image de Dieu. Ça montre aussi le côté inspiré du livre. Mais on peut voir aussi maintenant, pour venir au chapitre 3, que le chapitre 2 répond point par point au chapitre 3. On voit qu'il y a d'abord un dialogue entre les deux femmes, puis Ruth agit, dans un cas elle va glaner, dans l'autre cas elle descend à l'air, puis elle rencontre Boaz, il parle, Boaz la bénit, il lui donne de la nourriture, dans les deux cas, il lui donne une mesure de grain de jour, il lui donne 6 mesures de grain la nuit, total 7. Et puis, elle rentre auprès de sa belle-mère qui lui raconte tout, et ça ouvre l'épisode suivant. Donc, parallélisme entre ces deux chapitres, mais inversion. L'un de public, l'autre privé. L'un de jour, l'autre de nuit. Et donc, c'est assez important. Mais puisque j'aime les chiasmes. On en retrouve également un dans ce chapitre 3. On voit, comme je l'ai dit, Noémie qui cette fois dit à Ruth d'aller sur l'air et lui dit comment agir. On verra ce point, ce plan assez curieux. Ruth accepte. Ruth va sur l'air. Elle n'était pas censée y aller. Les femmes ne devaient pas aller sur l'air. C'est donc un très gros risque qu'elle prend. Puis Boaz s'endort. Ruth suit le plan. Elle se couche à ses pieds. Et là, les choses changent. C'est l'axe central. Boaz se réveille et Ruth, Noémie ne lui avait pas dit de le faire, mais Ruth lui demande de mettre le pan de son manteau, c'est l'équivalent de l'aile, c'est le même mot, sur elle, c'est-à-dire une demande en mariage. Boaz bénit Ruth et accepte sa demande, puis il la garde vers elle, il ne veut pas la renvoyer dans les dangers de la nuit, il lui fait un cadeau, et Ruth raconte à Noémie ce qui s'est passé. De nouveau, cette structure en reflet, si vous voulez. On trouve aussi d'autres particularités dans ce chapitre qui a fait souvent tiquer les commentateurs. C'est qu'en fait, il est bourré, on le verra en lisant le texte, de mots qui ont double sens. Un sens normal et un sens qui hésite entre l'érotisme et carrément la pornographie. C'est vraiment assez cru. Alors beaucoup de gens ont tiqué. Mais je pense qu'il a sa place là-dedans, on le verra. Seulement, avant de passer à la lecture du livre, peut-être que je devrais vous montrer à quoi ressemble une ère de vannage. Est-ce que c'est que vanner? Parce que je me rends compte que, à voir avec mes enfants, que beaucoup de gens ne connaissent plus très bien les travaux des champs. Quand on avait récolté les gerbes avec leur paille et leur épi, on les jetait sur une surface plane et on les faisait piétiner par des bœufs ou éventuellement on les frappait avec des fléaux, c'est-à-dire un outil avec une partie de bois articulée. Puis ça séparait la graine de l'épi. Mais il restait aussi un peu de poussière légère qui était l'enveloppe. Alors la nuit ou le soir, quand la brise nocturne venait, avec des fourches ou avec de grands paniers d'osier, on ramassait comme ça ce qui avait été écrasé et on le jetait en l'air. Et le vent emportait la balle, c'est-à-dire la partie fine qui entourait le grain, et le grain retombait par terre à part. C'est ce qu'on appelait vanner. C'était un travail dur, c'était un travail lourd, c'était un travail en général, un travail d'homme. Voilà. Alors le plan de Noémie, par rapport à ce que j'avais dit avant, c'est le premier et le deuxième épisode. Si, j'espère que ça ne vous dérangera pas, je le lirai et je commenterai les mots que j'ai soulignés. Sa belle-mère Naomi lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. » Assurer ton repos, c'est parfois traduit, « Je veux te donner une situation, un état. Je veux te marier. » C'est le rôle d'une mère. « Je veux que tu sois heureuse. » C'est le seul bonheur que peut concevoir Noémie. C'est la sécurité d'un bon mariage. Eh bien, Boaz, l'homme dont tu as accompagné les servantes, n'est-il pas notre parent? Or, il doit procéder cette nuit au vannage de l'orge qui est dans l'air de battage. Lave-toi, parfume-toi, remets tes habits, d'autres traductions disent ton manteau, et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait fini de manger et de boire. Connaître est le premier de ces mots à double sens. Dans la Bible, connaître, un homme connaît une femme, ça veut dire qu'il a des relations sexuelles avec elle. Quand il ira se coucher, observe l'endroit où il se couche. Ensuite, va découvrir ses pieds et te coucher. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Là, alors, ça devient vraiment très, très ambigu. Parce que on peut très bien traduire, le texte hébreu le permet, « va te découvrir à ses pieds ». Et si on imagine que Ruth est couverte de son manteau, on ne sait pas ce qu'elle a dessous. Et certains imaginent qu'elle n'a rien. Donc, et puis les pieds, en plus, c'est un euphémisme pour le sexe masculin. Donc, qu'est-ce qu'elle va découvrir? On se demande. Elle va te coucher ou coucher avec lui. Le texte est possible. Et il te dira quoi faire. Bah. Ruth lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Elle, verset 6, insiste. Elle descendit à l'aire de battage et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Voilà. Épisode suivant. Boaz mangea et but. On peut imaginer que c'est le festin, comme le ressa à la fin des vendanges, le festin qui célèbre une belle récolte. Et son cœur était joyeux. Il n'est pas ivre, juste heureux, joyeux. Il alla se coucher au bout du tas de gerbes, sans doute pour le garder. Là aussi, il paraît qu'il y a une allusion, mais voilà. Ruth vint alors tout doucement, secrètement, furtivement, découvrit ses pieds et se coucha. C'est répété. Au milieu de la nuit, Boaz eut un frisson. D'autres traduisent, il eut un sursaut, ou il eut une frayeur. Il se pencha et vit une femme couchée à ses pieds. Peut-être que ça pouvait être une servante. À l'époque, il arrivait que des servantes couchent aux pieds de leur maître pour répondre à les besoins, mais pas sur l'air. Elle n'avait pas le droit d'être là. Il dit, « Qui es-tu ? » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends le pan de ton manteau sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Étends le pan du manteau, c'est exactement la même phrase que dans la bénédiction que Boaz avait faite dans les champs à Ruth, tu es venu te mettre sous la protection de l'aile. L'aile, le pan du manteau, si vous regardez là le personnage, vous voyez ce grand manteau. Eh bien, étendre le pan du manteau sur sa femme, sur sa fiancée, c'était un rite nuptial. Et il est toujours pratiqué par les Juifs. Donc, c'est bel et bien une demande en mariage. Même si elle reprend la phrase que lui avait adressée Boaz. Et elle lui dit, tu as droit de rachat. Joël en avait parlé la dernière fois. C'est en fait un combiné que Ruth a fait entre le droit de rachat de quelqu'un qui devait vendre son champ, et puis qui devait se vendre en esclavage, et un proche parent devait le racheter, par sécurité, c'était l'assurance sociale de l'époque, mais c'est aussi le droit de lévirat. Une veuve pouvait demander à épouser son beau-frère, le frère de son mari, pour qu'il lui fasse un enfant qui serait réputé enfant du défunt, enfant posthume, et qui relèverait le nom. Et c'est ça qu'elle demande. Le mot hébreu, c'est Goël. Tu es mon Goël, tu es mon rédempteur. C'est le sens du mot, mon racheteur, mon rédempteur. Évidemment, pour les chrétiens, on voit immédiatement à quoi ça nous fait penser. Juste après ce que je viens de dire, c'est un peu surprenant. Mais voilà. Et Boaz va répondre. Intéressant. Une deuxième bénédiction. Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait d'amour, de générosité envers ta belle-mère, il y a plusieurs traductions possibles, de piété même. Il utilise le terme hesed, qui est un terme employé pour Dieu, pour sa bonté. Ça témoigne encore plus de ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Elle ne s'est pas laissée guider par son cœur ou par sa sensualité. Maintenant, ma fille, n'aie pas peur. « Je ferai pour toi tout ce que tu diras. » Lui, le grand propriétaire, dit à sa servante la phrase que Ruth avait dit à sa belle-mère. « Car tout le monde sait que chez nous, que tu es une femme de valeur. » Le mot de valeur, ici, c'est le même mot utilisé dans le Proverbe 31 pour la femme vaillante. Mais c'est aussi le mot qu'on a utilisé au chapitre 2, pour décrire Boaz, l'homme puissant. Donc en lui disant « tu es une femme de valeur », il la met à son niveau, à lui. Il en fait une égale. « Il est bien vrai, dit-il, que j'ai droit de rachat, mais il existe un autre parent plus proche que moi qui a ce droit. » Celui-là, tout le monde semblait l'avoir oublié. On voit ainsi que Boaz a une réponse encore plus généreuse que la précédente, puisqu'il va accepter de pratiquer le lévirat alors qu'il n'était pas le frère de Marlon, le premier mari. Et voilà la suite du plan de Boaz. Noémie avait un plan, mais Boaz a aussi un plan. Passe la nuit ici, demain, s'il veut exercer envers toi son droit de rachat, c'est bien qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas de l'exercer envers toi, je le ferai, moi, l'Éternel est vivant. C'est une formule de serment très solennelle qu'on trouve deux ou trois fois ou quelques fois dans la Bible. Reste couché jusqu'au matin. On imagine que ce n'est pas pour profiter d'elle, mais peut-être parce qu'il serait dangereux pour elle de rentrer au milieu de la nuit. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin et se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. De nouveau, un mot un peu ambigu, mais enfin, le premier sens, ça signifie que c'est l'aube. Il ne veut pas, en effet, qu'on ne sache pas que cette femme est entrée dans l'ère de battage. Il veut préserver sa réputation à elle et sa réputation à lui, parce que autrement, ça pourrait empêcher leur mariage. Et il ajouta, « Donne le manteau qui est sur toi, tiens-le, le fameux manteau. » Elle le tint et il compta 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Le texte dit en fait 6, ça aurait pu être 6 grains. Puis il entra dans la ville. Et dans le texte original, ou dans les versions différentes du texte original hébreu, tantôt c'est « il entra » et tantôt c'est « elle entra ». Intéressant, mais il n'y a peut-être pas grand-chose à en dire de plus. Alors la réaction de Noémie, Ruth revint chez sa belle-mère, qui lui dit « est-ce toi ma fille ?» comme si elle ne la connaissait pas. Et en fait, ça traduit sa surprise. Donc les différentes versions peuvent dire « comment les choses se sont passées ? Est-ce que c'est toujours toi ? Es-tu toujours la même ? Qu'en est-il de notre plan ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit une chose qu'on n'avait pas entendue pourtant. « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant « tu retourneras pas les mains vides vers ta mère ». Et là, c'est de nouveau un rappel de ce que Ruth avait dit dans le livre, dans le premier chapitre, quand elle se plaignait d'être rentrée à Bethléem, vide, sans mari, sans enfant, sans rien. Là, c'est une première réponse matérielle à ses besoins. Parce que 6 mesures d'orge, on peut vivre de très nombreuses semaines avec ça. Alors, elle donne un nouveau conseil à sa fille. « Ma fille, reste tranquille, donc ne bouge pas, ne va pas travailler ou quoi que ce soit, jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire, car cet homme ne se donnera pas de repos avant de l'avoir réglé aujourd'hui. » Fin de l'épisode. Alors évidemment, ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'analyser, de voir comment on commente ce texte, qu'est-ce qui se passe. Et là, c'est intéressant, parce que en fait, les commentateurs sont extrêmement partagés. J'ai lu au moins, rien que pour le chapitre 3, 4 versions totalement différentes, auxquelles on peut en ajouter de temps à autre une ou l'autre. Joël en avait un peu parlé, il y a une version quasiment féministe, Diana avait mentionné le fait qu'il y avait un certain côté subversif et polémique aussi à ce livre, ces 2 autres lectures possibles. Moi, je vais voir avec vous 4 lectures qui s'enchaînent, parfois quasiment contradictoires, mais je pense que toutes sont riches, que toutes ont quelque chose à nous apporter pour connaître ce livre et surtout ce fameux message qui le traverse d'un bout à l'autre, qui est la bonté de Dieu et comment cette bonté prend corps, se réalise à travers des vies humaines, des vies quotidiennes, dans la vie de Noémie, de Ruth et de Boaz. Et on le voit particulièrement bien dans ce chapitre 3. Première lecture, c'est évidemment celle sur laquelle tous nos contemporains sautent dessus, C'est la lecture sentimentale, romanesque, une jeune femme étrangère sans le sou qui tombe amoureuse et réciproquement d'un propriétaire terrien mûr qui a l'âge de son père, mais qui est riche, et qui donc décide avec sa belle-mère, qui lui donne de bons conseils et qui l'encourage, d'aller essayer de le séduire pour l'amener gentiment au mariage. Et on a presque l'impression que c'est ou bien le cantique des cantiques, mais à l'âge près, qui est quand même important, du héros, ou alors que c'est Cendrillon, et puis que Noémie joue le rôle de la belle-mère, de la marraine. Donc l'accent, c'est vraiment sur le sentiment amoureux qu'on imagine en Ruth, qu'on imagine, je dis bien qu'on imagine, le texte ne dit rien, chez Boz. Il y a un problème, c'est que les mariages à l'époque ne se faisaient jamais sur la base d'un amour mutuel antérieur. Oh, il y a quelques cas où oui, ça peut se faire, mais où disons un homme est attiré par une femme et demande à ses parents d'aller présenter une demande de mariage. Samson, par exemple, et sa première Philistine. Mais c'est très rare. Généralement, on se mariait à l'époque pour des raisons d'intérêt, pour faire une cellule sociale solide. Le mari entretenait la famille et la femme faisait des enfants, élevait des enfants pour prolonger de génération en génération la famille. Donc le sentiment amoureux au début, là, ça n'a rien à voir, c'est anachronique. Mais tout de même, on ne peut pas nier qu'il y a, on a le sentiment en tout cas, qu'il y a un amour naissant. Mais c'est un amour très respectueux. Et cet amour me fait penser à cet amour en vis-à-vis que Dieu avait prévu pour Adam et Ève. Donc, c'est ça que je retiens de cette première lecture. L'autre, waouh, c'est le contraste. Elle est sordide. C'est l'histoire de deux intrigantes, deux étrangères, enfin une était revenue, était du pays, mais qui n'ont pas le sou et qui veulent piéger un brave homme pour l'obliger à épouser la jeune et ainsi capter sa fortune. Alors évidemment, il faut que la jeune soit séduisante, elle va se pomponner, se faire belle, peut-être même ne pas s'habiller sous son manteau, et puis elle va profiter que l'homme est ivre pour lui faire une relation sexuelle, puis ensuite dire « Ah, tu m'as mis enceinte, tu dois m'épouser ». Tout le monde connaît l'histoire. Ben non, c'est pas tout à fait ça. Ça contredit complètement l'attitude précédente de Ruth, qui s'est montrée très réservée. Et ça jette vraiment une sale lumière sur les personnages. Naomi, une manipulatrice, une intrigante. Ruth, pas beaucoup mieux. Et Boz, un brave type un peu naïf. Dans le chapitre 4, on verra que c'est un homme très avisé. Pourtant, il y a le double sens des mots qui donnent du poids à cette lecture. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Et un commentateur a eu une idée que je trouve géniale. Il dit ce double sens ne montre pas ce qui s'est passé, mais ce qui aurait pu se passer. C'est une tentation. C'est ainsi que je le traduis. Les deux personnages se sentent attirés l'un par l'autre, et la situation est ambiguë, c'est évident. Ils aimeraient bien, mais ils décident de ne pas le faire. Et tout le vocabulaire montre leurs sentiments. Donc, c'est possible. Il y a d'ailleurs une autre ambiguïté là-dedans, c'est qu'à deux reprises, quand Naomi donne son plan à Ruth, au lieu de dire « tu descendras dans l'air et tu te coucheras », le texte original dit « je », comme si c'était Noémie qui rêvait de le faire elle-même. Elle a tellement besoin et envie d'un enfant. Alors les gens sautent là-dessus, certains commentateurs, pour dire « il n'y a qu'une manipulatrice, c'est Naomi ». Qui veut, comme Sarah à l'époque avec sa servante, ou Rachel et Léa, se faire un enfant adoptif par mère porteuse. Donc elle manipule aussi Ruth. Mais de nouveau, on n'a pas cette impression. Ruth n'est pas une femme qui se laisse manipuler. Joël l'a montré très déterminée, très audacieuse. Donc cette lecture, il y a quelque chose d'intéressant, mais pas final. Alors voilà la lecture, mais ce n'est pas la seule. C'est la troisième sur quatre que vous attendiez peut-être. On voit à travers ce chapitre ce qu'on avait entrevu précédemment, c'est la bonté de Dieu qui n'oublie pas les vivants et les morts. Et donc, c'est sa mise en œuvre de sa bonté à travers des instruments humains. Alors, on a tout d'abord Noémie. Noémie, au fond, elle se sent un peu des responsabilités maintenant envers Ruth, comme envers sa fille. Elle veut lui faire faire un bon mariage. C'est un peu conventionnel, mais elle s'appuie sur ce qu'elle connaît, les deux modèles bibliques de Lévira qu'elle connaît, qui se trouvent être des modèles très scabreux. C'est les deux filles de Lot qui, après le déchaînement du feu et du soufre sur Sodome et Gomorre, se retrouvent seules avec leur père. Ben, il n'y a pas d'enfant possible, leurs maris sont morts. Alors elles enivrent leur père et se font faire un enfant. L'aîné aura un fils qui deviendra Moab, et donc c'est l'ancêtre de Ruth. L'autre exemple, tout aussi scabreux, c'est entre Judas, l'un des fils de Jacob, et sa belle-fille. La belle-fille est devenue veuve, le premier mari est mort. Alors, Judas lui donne son deuxième fils, qui refuse de lui donner un enfant. Pas des méthodes un peu particulières. Alors, Tamar vient vers son beau-père et dit, « Mais je veux relever le nom de mon mari, je veux le troisième fils, qui est un gamin. » Et le père refuse. Alors, Tamar, furieuse, et qui se rend compte que la famille va se terminer là, se déguise en prostituée, attrape son beau-père au contour, qui ne la reconnaît pas, se fait faire un enfant. Et au moment où les gens vont dire à Judas, « Hein, ta belle-fille, t'as vu, elle a fauté », elle révèle qui est le père de l'enfant. Et ces deux modèles, très tangents, ont été reconnus dans la Bible. C'est tout ce que Noémie connaît. Alors elle se dit, « Ben voilà, Ruth va faire la même chose. C'est autorisé. » Elle le fait parce qu'elle personnifie l'espérance. Elle croit que Dieu peut la relever par l'entremise de Boaz. Ruth, nous avons vu qu'elle est vraiment celle qui pousse le plus loin la compassion, vraiment l'amour, la miséricorde, à l'image de la chesed de Dieu. Elle agit vraiment par amour, elle travaille pour sa belle-mère pour la nourrir, elle ne l'abandonne pas, et finalement elle accepte même de se donner, de donner sa vie à un autre homme, pour faire cet enfant qui relèvera le nom de la famille de Noémie. Elle agit vraiment avec amour. Et puis Boaz, lui, qui est quand même un notable, quelqu'un de respectable, il abandonne son image d'homme respectable. Il accepte de faire ce que lui dit de faire une femme qui pourrait être sa servante. Il accepte d'être le rédempteur, d'aller plus loin que la loi de Lévira, d'aller plus loin que la loi de Racha. Il va au-delà de la bonté de Dieu. Et il accepte en toute connaissance de cause. Il a confiance, il a foi en Dieu. Il accepte d'être l'instrument de Dieu. L'amour, l'espérance, la foi. C'est vraiment la miséricorde de Dieu en œuvre. Alors évidemment, ça c'est la lecture que les juifs peuvent en faire et les chrétiens. Mais nous, comme chrétiens, on peut aller un peu plus loin. On peut faire une lecture qu'on appelle typologique, christique si vous voulez, en mettant le Christ au centre de cette histoire. Un Christ voilé, bien sûr, puisqu'on n'est pas encore dans le Nouveau Testament. Mais c'est vraiment un pont entre le Nouveau et l'Ancien Testament, ce livre de Ruth. Et on peut voir que, par exemple, Noémie, qui se convertit, est d'accord, elle est croyante, mais elle reste un petit peu traditionnelle. Elle voit la rédemption matérielle, actuelle. Elle ne fait pas le pas de plus. Tandis que Ruth, c'est vraiment la néophyte, celle qui vient de se convertir à ce Dieu qu'elle ne connaissait pas, on l'a vu dans le chapitre premier, et qui est prête à tout, même à donner sa vie. Et on voit qu'elle, on a l'impression qu'elle va tout confier à son Rédempteur, tous ces fardeaux de sa vie. Elle était veuve, elle était stérile, parce qu'elle n'avait pas eu d'enfant dans son premier mariage. Elle est pauvre, elle ne sait pas de quoi l'avenir va faire. Elle fait confiance au plan de Noémie, elle descend vers Boaz, elle fait confiance à Boaz. Et elle fait ce que... Enfin, elle donne tout ce qu'elle a. Si elle perd sa réputation, elle est totalement perdue. Mais elle court ce risque, comme de nouveaux chrétiens, tout feu, tout flamme. Et enfin, le personnage évidemment central dans cette histoire, c'est Boaz. Boaz, le rédempteur matériel, mais aussi celui en qui on peut très facilement voir le Christ lui-même. Et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que Boaz sera inscrit dans la lignée messianique. Il est l'image même du Christ dans son aspect rédempteur. Comme Ruth personnifiait et rendait matériel l'amour de Dieu. Alors on peut aller plus loin et puis chercher des symboles partout. Ruth qui se lave et qui se parfume, c'est le baptême. Hein? Baptême d'eau et baptême d'esprit. Elle se oint de parfum. Comme dans le baptême, on est loin de l'esprit. Ou bien, on peut dire qu'elle descend à l'air comme on descend, se jeter au pied de la croix. On peut, et certains personnages l'ont fait, voir toutes sortes d'allégories, dire que Ruth, c'est la partie de l'Église des étrangers, le païen, et puis que Noémie, c'est la partie juive. Hein. Et comme Paul disait, il n'y aura plus ni juif ni païen, puisque la bonté de Dieu, enfin, ils ont le même Seigneur qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à lui. Je pense qu'il faut garder l'idée générale, mais pas peut-être chercher une allégorie dans chaque détail, parce qu'alors l'arbre risque de cacher la forêt. Ce qu'il faut garder en tête, c'est vraiment que c'est la bonté de Dieu qui se réalise dans la vie quotidienne des personnages, mais c'est un miroir pour la réalisation de la rédemption par le Christ. Alors, ben voilà, en conclusion, le livre de Ruth s'inscrit vraiment dans la révélation progressive du plan de Dieu. Ça nous incite à la méditer, ça nous incite aussi à lire ce livre, à essayer de reprendre ces lectures. Vous trouverez peut-être d'autres choses à partager. Et puis se rappeler que la miséricorde de Dieu, sa bonté, parcourt nos vies, comme on le voit dans le cas de Naomi et de Ruth, qu'elle est présente, que Dieu, lui, ne dit rien, c'est un Dieu assez silencieux dans ce livre, mais il agit par l'intermédiaire des frères et sœurs. Ça, il faut s'en souvenir. Il y a même des paroles prophétiques, comme le fameux verset central de Naomi. Voilà. Et puis, Boaz, le vieux qui n'avait pas eu d'enfant, Ruth, la veuve stérile, comme Abraham et Sarah, ils vont avoir des enfants et ça donnera à la longue le Messie. Eh bien, Dieu peut agir de la même manière et rendre nos vies fécondes. Amen.